Vous écoutez RTL.
Il est 8h20 sur RTL. Vous recevez ce matin Olivier Mazerolle, un invité exceptionnel. Laurent Fabius est
bonjour.
Avec vous.
Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour.
40 ans de vie politique, plus jeune Premier ministre à 37 ans, frondeur à l'époque envers François Mitterrand, à qui vous avez reproché de recevoir le général Jaruzelski à Paris alors qu'il venait de proclamer la loi martiale en Pologne. L'impertinence de la jeunesse?
Sans doute.
Sans doute. Récemment, vous avez dit j'étais gamin à l'époque.
J'étais objectivement jeune, mais on ne choisit pas le moment où on devient Premier ministre. Et en général, quand on vous le propose, il est rare qu'on le refuse.
Et alors, de gamin, vous devenez un sage?
D'après ce que je lis dans les journaux, j'étais un actif sage. Et maintenant, je vais devenir un sage actif.
Alors, on va parler quand même de la politique étrangère.
Volontiers.
Vous avez connu des succès et des échecs au Quai d'Orsay. Votre plus grande désillusion, c'est sans doute la Syrie. Quand vous arrivez au Quai d'Orsay, comme votre prédécesseur Alain Juppé, vous réclamez le départ de Bachar el-Assad, vous l'avez traité d'assassin.
Mm-hmm.
Près
c'est
de
vrai.
4 ans plus tard, à votre tour, vous partez, l'assassin est toujours là.
Malheureusement.
Quelle conclusion vous en tirez?
Succès-échec, on va en parler. C'est vrai qu'il y a eu des succès, mais,
mais
en politique internationale, c'est pas parce que la France prend une position que tous les autres pays du monde s'alignent. Bon, donc on peut avoir des regrets, mais on ne peut pas automatiquement faire prévaloir ses vues. Et c'est vrai qu'en Syrie et d'une manière générale, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, la situation est calamiteuse. Et dans le cas de la Syrie, elle est dramatique parce que ce monsieur Bachar el-Assad, il a à son passif la responsabilité principale de 260 000 morts. 260 000 morts.
Et la France. Millions de réfugiés.
Et la moitié de la population a dû quitter son domicile. Nous, depuis le début, la France, qu'est-ce que nous avons cherché? Il faut toujours avoir un objectif. Alors, on l'atteint ou on ne l'atteint pas. L'objectif, c'est d'avoir une Syrie qui soit libre, alors qu'elle n'est pas, et où chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, puisse développer ses idées, et que toutes les communautés qui sont là-bas, sunnites, chiites, etc., puissent vivre en paix. C'est quasiment impossible avec M. Bachar el-Assad, puisqu'il a tué, directement ou indirectement, la moitié... et fait partir
et
de chez
eux
la moitié de la population.
La Russie, voilà. L'Iran.
Alors, nous disons que la solution est politique, d'où les négociations qui sont indispensables, mais il faut aussi que sur le terrain, les choses bougent, et ses alliés, ceux qui l'ont ramené, enfin rétabli dans sa force, ce sont les Russes et les Iraniens, qui aujourd'hui, s'agissant des Russes, bombardent la population civile. Et Alep, avec ses centaines de milliers d'habitants, est quasiment encerclé, avec des risques de famine épouvantables.
Assad est un assassin, dites-vous.
Oui.
Les Russes sont les complices d'un assassin?
J'ai dit hier que dans ce drame syrien, il y avait à la fois une brutalité sanguinaire de Bachar. Je ne l'ai pas inventé. L'ONU dit que c'est un criminel contre l'humanité. Un rapport récent a dit qu'il avait fait tuer et torturer des milliers de gens dans les prisons. Donc, une brutalité sanguinaire. Et puis, dans les faits, on le voit tous les jours. Vos collègues journalistes le rapportent. Il est maintenu en place par les Russes et les Iraniens. Et ce sont les Russes qui bombardent. Mmh. Ils devraient bombarder Daesh. Ils bombardent l'opposition modérée.
Angela Merkel a dit « les Russes tuent des civils ».
Mais c'est vrai.
C'est vrai.
Bien sûr. C'est avéré.
Ils commettent un crime aussi, alors.
Oui, ils sont complices de ce qui se passe là-bas. Et donc, tout le travail qui est extrêmement difficile, puisque les Russes sont une puissance considérable, membre permanent du Conseil de sécurité, donc opposent leur veto à toutes les résolutions. Tout notre travail, c'est d'arriver, et je traitais cela encore avec mes homologues hier, arriver à faire un levier pour que les bombardements russes s'arrêtent, qu'il y ait un cessez-le-feu, et que la négociation entre, d'un côté, les éléments du régime, et de l'autre, l'opposition modérée, puisse recommencer.
Mais vous observez également que les Américains ne sont pas très fermes dans cette situation.
J'ai dit qu'il y avait des ambiguïtés au sein de la coalition.
Parce qu'ils tiennent à leur entente avec l'Iran, qui est impliqué également dans le conflit.
Oui, et parce que je crois que le président Obama veut surtout ne pas engager de forces importantes là-bas. Alors, ils ont des forces spéciales. Mais si vous voulez, on a vu ça, peut-être vous le rappelez, en août 2013, alors que Bachar avait utilisé l'arme chimique contre son peuple. Le président Obama avait dit « c'est une ligne rouge, et si il fait cela, je réagis ». Nous étions prêts à réagir, et puis il n'y a pas eu de réaction. Et à partir de là, mon interprétation de l'histoire, c'est que M. Poutine, qui est extrêmement intelligent et qui n'a pas de problème de démocratie majeure dans son pays, a décidé qu'il pouvait intervenir dans plusieurs territoires, et ça a été le cas de la Crimée et de l'Ukraine.
Face à cette réelle politique, Laurent Fabius, est-ce qu'il n'y a pas un côté Don Quichotte, illusoire, de s'entêter à réclamer quelque chose qui ne survient pas, parce que la réelle politique s'impose?
La France est un pays indépendant. Et ça, c'est une tradition de la diplomatie française, et c'est fondamental. Nous ne prenons nos ordres ni aux États-Unis, ni en Russie, ni nulle part. Et quand le président de la République, moi-même, ministre des Affaires étrangères, nous avons à prendre une décision, nous regardons quel est l'intérêt de la France et l'intérêt du monde. Bon, l'intérêt de la France et du monde, c'est qu'il y ait la paix et la sécurité. Nous n'y arrivons pas toujours. Nous y sommes arrivés dans certains pays d'Afrique, nous y sommes arrivés à la COP21, nous y sommes arrivés avec l'Iran. Mais il y a un certain nombre de circonstances où, honnêtement, nous n'avons pas pu faire bouger les choses. Vous parlez de la Syrie, qui est un drame absolu et visible, mais il y a aussi la question israélo-palestinienne, mais il y a aussi ce qui se passe en Libye. Et donc, il faut continuer. Jaurès a tout résumé. Il ne parlait pas de la diplomatie, mais ça s'applique à la diplomatie. Il faut aller vers l'idéal, mais il faut comprendre le réel. Nous ne sommes pas des rêveurs.
L'accord avec l'Iran, c'était un succès. D'ailleurs, vous avez été félicité jusqu'aux États-Unis pour votre fermeté dans la discussion, empêcher que ce soit un accord en chiffon de papier. Oui. Mais il y a une désillusion quand même, c'est qu'au lieu de célébrer le retour sur la scène internationale, les Iraniens appuient les Syriens et manifestent leur volonté de dominer le monde musulman au Proche-Orient.
Alors, l'accord sur le nucléaire iranien est un accord qui est très utile. Et la position de la France a été de dire oui, on veut un accord, mais un accord sur des bases sérieuses. Et toute notre attitude dans les négociations a été en ce sens. Et on nous avait dit à l'époque, oh là là, c'est très dangereux, parce que du coup, les Iraniens n'auront plus aucun contact avec vous. Vous avez vu, le président Rouhani était là, bien. Mais je n'ai jamais cultivé d'illusions. Ce n'est pas parce qu'il y a un accord sur le nucléaire iranien qui est utile que ça veut dire que l'Iran va changer son attitude dans toute la région. L'Iran est une puissance très importante, c'est une culture, c'est une civilisation. Ils sont présents en Irak, ils sont présents dans des conditions dramatiques en Syrie, ils sont présents par Hezbollah interposé au Liban, et ils vont maintenant, ils se réintègrent peu à peu dans la communauté internationale, mais malheureusement, le temps n'est pas encore venu où ils changeront leur attitude régionale.
Le grand succès, la COP21, vous avez été un des architectes, pour ne pas dire l'architecte de cet accord. On vous a vu d'ailleurs ce jour-là au bord des larmes, comme hier à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que l'animal à sang-froid est émotif.
Bien sûr. Mais vous savez, la politique, maintenant, bon, on couvre de fleurs, mais je lis parfois d'ailleurs avec amusement, parce que l'humour est une vertu puissante. Lire sa nécrologie de son vivant, c'est toujours assez intéressant. Bon, oui, votre question. Donc, c'est dur, la politique. On reçoit des coups. Parfois, on en donne. Maintenant, j'ai cessé d'en donner et un peu d'en recevoir. Mais du coup, il faut garder sa tendresse intérieure.
Alors, la tendresse. Hein,
et Guevara, c'est étonnant de m'entendre citer Guevara, mais Guevara disait, il faut se durcir sans se départir de sa tendresse.
Eh ben, vous allez conserver un bureau au Quai d'Orsay parce que vous voulez garder la présidence de la COP21 jusqu'à la fin de l'année. Alors, enfin, j'imagine la scène. Vous imaginez Ségolène Royal, ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius ayant un bureau au Quai d'Orsay. Vous savez qu'elle a de la tendresse, mais elle peut être vacharde aussi. Est-ce qu'elle ne va pas dire, bah, tiens, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour garder les enfants?
Non, mais il n'y a aucun problème de ce type. Le président de la délégation française, pendant la COP21, c'était Ségolène Royal. Bon, ce n'était pas Laurent Fabius. Bon, moi, j'ai été élu pour présider la COP21, c'est-à-dire essayer de trouver un accord, et on l'a trouvé, entre 195 pays. Et voilà, donc c'est un rôle international, ce n'est pas un rôle français. Et d'autre part, par rapport au Conseil constitutionnel, c'est une fonction qui n'est pas rémunérée, qui est provisoire, donc ça ne pose aucun problème.
D'accord.
Et en plus, j'en ai discuté avec mes collègues étrangers, je pense qu'on a acquis quand même un certain, comme dirait Ban Ki-moon, leadership. Donc ce serait dommage de recommencer les choses.
D'accord,
donc,
mais voilà. Il faut mettre du contenu dans l'accord.
C'est ce qu'on fait.
Et c'est du boulot.
Ce matin, je réunis le bureau international, la COP21.
Et c'est du boulot, ça nécessite des déplacements. Président du Conseil constitutionnel, c'est un boulot à plein temps également.
Oui. Non, mais il n'y aura aucun problème. C'est, ce qui demande beaucoup, beaucoup de travail, c'est le travail de ministre des Affaires étrangères, mais pas le travail de président de la COP21.
Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir, à un moment donné, éventuellement, un conflit d'intérêts, si vous avez à examiner un texte qui concerne l'environnement au Conseil constitutionnel?
Non, mais ce n'est pas le président de la COP21 qui lui-même prend les décisions. Et d'autre part, puisque vous êtes visiblement un grand spécialiste du Conseil constitutionnel, si jamais il y a un conflit d'intérêts, n'importe quel membre du Conseil constitutionnel peut se déporter et donc ne pas prendre part au vote.
Alors, votre plus grande frustration, c'est de ne pas avoir... Vous étiez programmé pour être président de la République, intelligent, reconnu comme pour votre
continuez.
Et puis...
L'émission, j'espérais, longue.
Eh bien, vous n'y êtes pas arrivé. Qu'est-ce qui vous a manqué ?
Je ne sais pas, mais je vous confirme qu'on peut être utile à son pays sans être président de la République et être heureux sans l'être.
Donc vous êtes devenu hollandais, alors ? Heureux sans l'être. C'est ce qu'il a dit à Manuel Valls.
Oui, enfin, en tout cas, j'ai extrêmement bien travaillé avec le président de la République. Je suis très reconnaissant. Et si la politique étrangère française est reconnue dans le monde, c'est notamment parce que le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et le ministre de la Défense, puisque nous avons travaillé beaucoup ensemble, se sont extrêmement bien entendus.
Dans votre carrière politique, votre plus grande épreuve, c'est le sang contaminé ?
Oui, sûrement, parce que vous avez connu ça, puisque vous êtes comme moi un jeune homme. C'était un malheur épouvantable pour les personnes qui ont été touchées. Et même si ma mise en accusation était totalement injuste, ça a été reconnu par la justice, qui a dit non seulement M. Fabius est innocent, mais il a pris les bonnes décisions. Mais évidemment, il était impossible, compte tenu de la douleur de toutes ces personnes, que je me prévale de quoi que ce soit. Et donc, pendant... 10 années, peut-être. Ceci a été extrêmement pesant, et j'en parle toujours avec beaucoup de réserve.
Et puisque vous quittez la scène politique proprement dite, quand vous retournez sur votre parcours, vous dites « j'ai au moins fait ça », c'est quoi ?
Willy Brandt, qui a rapproché l'Est et l'Ouest, on lui a posé cette question à la fin de sa vie. Je ne sais pas à la fin de ma vie, mais même si c'est la fin de ma vie politique. Et il a répondu une phrase que je trouve magnifique. Il a dit « j'ai fait mon possible ». Et en ce qui me concerne, je ne vais pas ramener à moi tel ou tel élément, mais ce que j'ai fait au Quai d'Orsay, vous savez, l'accord sur la COP21, c'est quand même, excusez du peu, le fait que s'il est respecté, ça veut dire que la planète restera vivable dans les siècles qui viennent. C'est mineur, je vous le reconnais, mais c'est quand même assez important. Premier ministre, je n'ai pas fait que des sottises. J'ai contribué à moderniser la France. Et puis, quand vous allez dans un lycée professionnel, rappelez-vous qui les a créés.
On retourne au Conseil constitutionnel. Vous avez retrouvé Lionel Jospin, encore un copain.
Oui,
copain, enfin, bon.
Ça, c'est le côté journalistique. Mais écoutez, nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et je serais heureux de le retrouver.
Alors, l'actualité est malicieuse parce que l'une des premières questions que vous allez peut-être devoir traiter au Conseil constitutionnel, c'est le recours constitutionnel de Jérôme Cahuzac qui ne veut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.
Écoutez, on verra. Mais vous faites allusion à quelque chose qui existe depuis 2008, qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité, qu'on doit à la fois à Robert Badinter et à Jean-Louis Debré, qui ont été deux remarquables présidents.
Donc, si et jamais Sarkozy qui l'a fait inscrire dans la Constitution.
C'est tout à fait exact. Donc, si jamais j'accède à ces fonctions, je me référerai à ces deux excellents présidents. Mais j'ai une règle, et ça vaut pour ce cas comme pour d'autres. Bon, si jamais il y a un conflit d'intérêts, on peut toujours se déporter. Mais maintenant, j'ai un très bon motif pour ne pas répondre aux questions qu'on va me poser.
Alors, tiens, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Je crains que vous n'y répondiez pas.
Parler de la déchéance de nationalité. Vous n'avez pas entendu.
Mais non, justement.
Eh bien, vous ne m'entendrez pas ce matin.
Non, vous n'avez pas eu un inconfort philosophique comme Emmanuel Macron à ce sujet ?
Vous ne m'entendrez pas parler de ce sujet parce qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, tout ça est assez complexe, un jour venir à la connaissance, peut-être, du Conseil.
Dans La Croix, ce matin,
pas du tout prévu.
Votre prédécesseur, Jean-Louis Debré, président actuel du Conseil constitutionnel, dit « Quel bonheur que d'agacer le pouvoir quand on est indépendant et qu'on se base sur le droit ». C'est une bonne ligne de conduite ?
Excellente. D'ailleurs, il a cité le mot juste « indépendance ».
Indépendance. Ce serait pas à gauche ni à droite ?
Indépendance.
Au centre ? Non.
Nous sommes là pour faire respecter la Constitution.
Oui, mais c'est compliqué quand on était impliqué dans la vie politique à votre point.
On est là pour faire des choses compliquées.
Merci Laurent Fabius.
Merci à vous.
Laurent Fabius, une dernière question. Est-ce que vous avez un avis ou un souhait concernant celui ou celle qui pourrait vous succéder au poste de ministre des Affaires étrangères ? Oui, vous n'avez pas démenti Ségolène Royal quand Olivier vous a interrogé.
Bien sûr, la personne qui me succédera, comme je suis extrêmement modeste, je souhaite qu'elle continue ce que nous avons commencé de faire avec le président de la République.
Et si c'est Madame Royal ?
La même chose.
Merci Laurent Fabius. Bonne journée et bon travail à la tête de notre Conseil constitutionnel.
Merci beaucoup.